Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Catherine Rouvier, dirigé aujourd'hui par Guillaume de Tannouarn, assisté d'Anne Le Pape. Cette émission est diffusée en direct jeudi 8 novembre 2012 de 18h à 21h, en différé vendredi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers amis auditeurs, nous voici ensemble à nouveau pour cette deuxième partie de l'émission de Catherine Rouvier, que je remplace ce soir, au micro donc l'abbé Guillaume de Tannouarn. Nous changeons totalement de décor, malgré la subtile transition que j'ai essayé d'opérer tout à l'heure, puisque nous allons ce soir parler ensemble de théologie. Je vois un certain nombre de visages se fermer chez les auditeurs. Je ne les vois pas, mais je les sens. Je crois que la théologie n'est absolument pas un domaine réservé, une chasse gardée, et qu'au contraire, nous devons pouvoir faire de la théologie. Et aujourd'hui, même pour être athée, il faut faire de la théologie. Pour être agnostique, il faut faire de la théologie. Et pour dire « je m'en fous », il faut faire encore de la théologie. Bref, nous voudrions, mes invités et moi-même ce soir, faire de la théologie, non pas en chambre et en nous enfermant dans des concepts obscurs sur lesquels il faudrait pinailler. Vous savez, la question du sexe des anges est toujours plus ou moins d'actualité chez certains théologiens qui, depuis Byzance, n'ont pas vraiment compris ce que byzantinisme veut dire. Mais je voudrais que nous sortions donc de ces byzantinismes pour parler du Concile Vatican II, qui, il y a 50 ans, venait juste d'ouvrir ses portes. Le discours d'ouverture solennel du pape Jean XXIII est du 11 octobre, mais les sessions, Luc Perrin, historien ici présent, va nous expliquer ça, se sont ouvertes un petit peu plus tard. En tout cas, pour parler de ce concile, je n'ai pas forcément des théologiens professionnels, j'ai des théologiens en liberté avec moi, parce que souvent les professionnels ne sont pas libres. Donc, en face de moi, Luc Perrin, historien de l'Église contemporaine.
Oui, mais qui travaille tout de même dans une faculté de théologie catholique, donc je suis bien un théologien professionnel, aussi curieux que ça puisse paraître.
Et vous êtes historien quand même.
Très professionnel, j'espère.
Voilà, on peut voir les choses de ce point de vue. Et puis, à côté de vous, Denis Sureau, et qui est le directeur des éditions de l'Homme Nouveau, donc de édition de livres et du journal de ce nom, et qui, je crois, a consacré plus que quelques lustres à l'étude attentive, percutante, exigeante, parfois critique, de ce concile. Est-ce que je... Oui, on peut dire les choses comme ça ?
Oui.
Parce qu'enfin, Vatican II, vous ne l'avez pas découvert depuis que vous êtes à l'Homme Nouveau. Je pense que c'est
je l'ai
une longue histoire
il y a
pour vous.
Trentaine d'années, oui. Voilà. Je me souviens très bien d'avoir acheté les actes du Concile chez un bouquiniste, donc sur les quais de la Seine, où je me promenais paisiblement et je les ai achetés pour 5 francs, je crois.
Vous voyez que déjà, ça remonte au temps du franc. Bon, alors nous allons essayer d'envisager ce concile dont le général de Gaulle disait, paraît-il, que c'était l'événement le plus important du XXe siècle. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette citation qu'on fait souvent, Luc Perrin, ou est-ce que pour vous elle est apocryphe?
Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la biographie du général, donc je peux difficilement vous dire. D'autres l'ont dit. Bon, c'est une citation, comme toutes ces citations ou ces exagérations, je dirais, bien évident que Hiroshima et Nagasaki, c'est bien plus important. Ben, bon. C'est bien évident aussi que la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale, c'est à mon avis bien plus important, parce que le Concile Vatican II n'a pas profondément changé grand-chose en Inde ou en Chine, vous voyez, pour prendre comme ça quelques exemples à la louche, de façon évidente. Bon. Par contre, c'est évident aussi qu'il est un événement incontournable, massif, majeur, considérable pour le catholicisme en particulier. Et le catholicisme, ce n'est pas peu de choses si on prend comme religion mondiale plus d'un milliard d'êtres humains aujourd'hui et dans la place du christianisme en général et dans ses interrelations avec les autres religions
aussi. Et puis on peut dire aussi qu'il a changé la relation de tous les hommes au catholicisme. D'ailleurs, il a voulu s'adresser à tous les hommes.
Absolument, oui. Alors, il a surtout pensé que tous les hommes, j'allais dire, étaient à l'écoute de ce qui se passait à Rome. C'est sans doute l'une des grandes illusions des pères conciliaires, dès le début d'ailleurs en 1962, parce qu'il va y avoir toute une pression au départ pour rédiger un petit texte qui s'appelle le message du concile au monde, dont d'ailleurs le père Chenu était un petit peu l'initiateur lointain. Il a eu un peu cette idée pendant l'été 62. Et donc ce message au monde, parce que Chenu disait, c'est pas possible, on peut pas se réunir en concile alors que toute l'humanité est à l'écoute et ne pas s'adresser directement aux hommes. Est-ce que toute l'humanité était à l'écoute comme le pensait le père Chenu et avec lui les pères conciliaires? J'en doute quelque peu. La suite me tente à me donner raison à mon scepticisme, en tout cas. On dirait qu'aujourd'hui, c'est l'indifférence, et c'est précisément un des points majeurs qui est un des points obscurs de Vatican II. Vatican II n'a jamais été pensé du tout dans le contexte d'une indifférence aux religieux, d'une indifférence dans le domaine, au christianisme en général d'ailleurs, dans les pays occidentaux et en particulier en Europe.
Ça, c'est, là, on c'est arrive un déjà obscur, à une critique de fond très importante, puisque...
Plus un élément de contexte qu'une critique. Parce que c'est logique qu'on n'y ait pas pensé en 62. C'est logique qu'on n'y ait pas pensé en 62, parce que
les bouleversements n'avaient pas encore eu lieu pour vous.
Exactement. Et que d'autre part, on sort à peine de la guerre froide, et encore, on n'en est pas véritablement réellement sorti. On parle du dégel, n'oublions pas quand même que quelques semaines avant l'ouverture de Vatican II, il y a eu quand même la crise des fusées de Cuba. C'est-à-dire que on l'a oublié, ça, totalement. Oui. Que le monde a été à deux doigts d'une troisième guerre mondiale et de la première guerre véritablement nucléaire.
Et Jean XXIII, je crois, avait essayé d'intervenir.
Alors,
à l'époque.
Il est effectivement intervenu, j'allais dire, pour calmer les choses. Bon, j'allais dire, dans cette affaire, c'est surtout du côté de Khrouchtchev, faut dire les choses qui sont, que on a été raisonnable au dernier moment, puisque c'est lui qui a accepté de baisser pavillon et d'arrêter et de faire retourner les navires. Mais c'est ça le contexte. Et il faut pas oublier aussi que du niveau des pères conciliaires, c'est également leur contexte. Le contexte, c'est un monde dont on a un petit peu perdu, nous autres, aujourd'hui, l'idée. Je le vois avec mes étudiants. Parler de la guerre froide, parler des deux blocs, de l'affrontement entre le camp occidental et le camp soviétique. Vous voyez, aujourd'hui, certes, l'actualité nous rappelle l'existence de partis communistes en Chine, vous voyez, aujourd'hui. Mais par exemple, très concret, la majorité des évêques chinois au concile sont des exilés.
Est-ce que justement sur ce point, le Concile n'a pas souhaité aller plus vite que la musique, plus vite que l'histoire, et enterrer la question communiste ?
Non, ça, je ne crois pas du tout. Alors ça, là, de ce point de vue, on pourra retourner au texte. On dit souvent, c'est une présentation qui, à mon avis, est totalement fausse. On dit souvent que Vatican II n'a pas traité de la question communiste. C'est faux à un double titre. C'est faux à un titre presque anecdotique, parce qu'il y a eu une pétition qui a été lancée par les pères de la minorité, le Cetus Internationalis Patrum, à partir de 1963, par les Brésiliens d'ailleurs, bien sûr soutenus par Mgr Lefebvre et puis par les autres. Cette pétition a obtenu presque un quart de votes favorables, de signatures, ce qui est considérable.
400, je crois.
Voilà, presque un quart, hein, pas tout à fait, mais bon, entre 20 et 25% de l'effectif à ce moment-là, en 65.
Et pétition qui demandait quoi ?
Et alors, pétition qui demandait une réitération de la condamnation du communisme. Alors, sachant que le communisme avait déjà été condamné par anticipation sous l'appellation socialisme par Léon XIII, qu'il avait été réexplicitement condamné par Pie XI en 1937, qui lui avait dédié toute une encyclique Divini Redemptoris, que dans ses multiples actes, Pie XII y avait déjà fait moult allusions. Je veux dire, bon, c'était pas, j'allais dire, la condamnation du communisme en 1962 ou 63 ou 65, ça pouvait paraître comme quelque chose d'acquis, si vous voulez. Hein. C'était plus vraiment un débat, à supposer qu'il y en ait même eu un, d'ailleurs, dans l'Église à ce niveau-là. Mais ça a donné lieu à une petite note, puisque cette pétition a été enterrée sous l'influence, en grande partie, disons-le, du futur cardinal Garonne, personnage complexe sur lequel on sait peu de choses, mais qui a eu beaucoup, beaucoup d'influence, qui se retrouvera en 1975, d'ailleurs, d'influence toujours aussi contestable, dirons-nous. Et Paul VI a accepté, néanmoins, d'autorité, hein, d'introduire cette note qui renvoyait à toutes les condamnations antérieures. Alors ça, c'est ce que je dirais l'aspect un peu anecdotique. Mais il suffit de lire le texte. Vous ouvrez le texte de Gaudium et Spes, il est question d'un athéisme collectif imposé dans toute la société. Il y a plusieurs paragraphes. Pour ne pas y voir la description du système communiste, il faut vraiment faire preuve d'une extraordinaire mauvaise foi. C'est évidemment pas du libéralisme dont on parle. Il suffit de lire le texte, est vraiment, enfin, d'une limpidité totale là-dessus. Donc,
Denis Suroux, vous auriez
dire que le communisme n'a pas été condamné, réévoquer, c'est faux. Hein, cet athéisme collectif, il est bien là, il est bien dans Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, dont on nous a dit que c'était un texte qui ouvrait vers une alliance vers le socialisme, etc., etc. On en est très loin quand on regarde les textes et quand on les lit avec attention.
Oui, enfin, l'une des difficultés des textes de Vatican II, c'est leur interprétation et le fait que ce sont des, on y reviendra sans doute, ce sont des textes de compromis et ce sont parfois des compromis un peu explosifs, quoi. Bon, je pense par exemple à Gaudium et Spes. Et pour resituer Vatican II par rapport à l'évolution des sociétés, de la société occidentale, ce qui frappe, avec le recul qu'on a maintenant, c'est que effectivement, sur un certain nombre de points, les analyses du Concile, lorsqu'elles sortent, sont déjà datées, elles sont déjà dépassées. Je pense, par exemple, un décret sur les moyens de communication sociale qui semble être écrit comme si quelqu'un comme McLuhan n'avait déjà pas produit ses analyses sur
la galaxie Gutenberg, la galaxie Gutenberg, médium, etc. Oui.
McLuhan étant un penseur catholique, un Canadien. Je pense à des passages, par exemple, sur la technique. Jacques Ellul a déjà publié des, enfin, entre autres, hein, Jacques Ellul et bien d'autres, Lewis Mumford, ont déjà publié des analyses, je dirais, définitives, qui ne sont pas dépassées sur la technique. Ces analyses sont complètement absentes, en fait, des textes comme Gaudium et Spes ou autres. Donc, il n'y a pas non plus dans Vatican II la perception de ce qui va se passer dès, je dirais, la, la fin du concile, enfin le phénomène 68 qui commence déjà aux États-Unis avant.
Tout juste 64.
Oui, mais enfin bon, il y a déjà le relâchement des mœurs qu'on voit par exemple dans le cinéma des années 60. On se rend bien compte qu'il y a un tournant, quoi. Et c'est vrai que
les Vatican II ne parlent pas beaucoup,
ne parlent pas parce que sans doute, je crois que, enfin, Luc Perrin saura certainement mieux en parler, mais les experts, les théologiens qui ont eu beaucoup d'importance au Concile ne s'intéressaient pas forcément beaucoup à l'évolution sociologique des sociétés. Et d'autre part, c'est un problème plus théologique et plus fondamental. La plupart de ces théologiens, et c'est un peu le paradoxe, étaient des néotomistes. Et le néotomisme est complètement étranger à la prise en compte de l'importance de la culture, en fait. Et bon, il y a des analyses fort intéressantes, par exemple d'une théologienne australienne contemporaine, Tracy Rowland, qui montre que ce qui a manqué profondément en fait à ces penseurs néotomistes, c'est une véritable théologie de la culture. Ce qui explique pourquoi l'utilisation qui est faite de la notion de culture dans Gaudium et Spes, ou la notion de monde moderne, est en fait très polysémique, équivoque. Le cardinal Ratzinger a été l'un des premiers d'ailleurs à souligner les carences conceptuelles dans le maniement de ce type de concept.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une avance considérable des pères conciliaires quant à la question de la mondialisation ? Est-ce que lorsque, par exemple, on lit dans Gaudium et Spes, l'Église propose au genre humain sa collaboration pour l'instauration d'une fraternité universelle, est-ce qu'elle n'est pas là dans une sorte d'anticipation de la mondialisation heureuse telle que nous la connaissions dans les années 90-2000 ? Telle qu'aujourd'hui elle apparaît d'ailleurs problématique.
Oui, le problème c'est que la mondialisation n'a jamais été fondamentalement très heureuse parce que elle met en œuvre des forces, des mécanismes économiques qui sont que tout bon spécialiste de la doctrine sociale de l'Église pourrait condamner assez facilement. Je veux dire, bon, les analyses de la mondialisation du théologien William Cavanaugh, qui m'est très cher, ont montré que la mondialisation...
Que vous avez publié en français.
Oui. Il montre bien que la mondialisation est une véritable spiritualité. Et comme le consumérisme est une véritable spiritualité.
Je crois, chers amis auditeurs, si vous n'avez pas encore coupé votre poste à l'annonce de cette partie théologique, je crois que vous comprenez l'importance de la théologie dans tous les domaines. Nous sommes en train de faire une théologie de la mondialisation et c'est non seulement possible, mais nécessaire.
C'est indispensable parce que un regard théologique est indispensable, je pense, pour prendre en compte la réalité, puisque la réalité n'est pas quelque chose qui serait complètement extérieur à Dieu. Donc,
attention aux anachronismes toutefois. On peut parler, là je crois que parler de mondialisation, tout dépend à quel niveau on en parle. Si on en parle avec les contenus actuels, il y a une OMC, il y a un marché dans lequel la pseudo-communiste Chine fait partie, etc., etc. Bon, on est effectivement aujourd'hui, oui, depuis 20 ans, dans un espace mondialisé au niveau économique, effectivement, sur lequel... qui n'est pas d'ailleurs tout à fait nouveau, qui n'a rien de vraiment neuf. Vous savez, les analyses concernant le libéralisme, on les trouve chez mon bon ami Léon XIII. Hein. Donc la mondialisation, c'est le libéralisme de Léon XIII à une échelle plus vaste que le petit monde développé qui existait en 1891. Voilà tout. Bon. Et les slogans du laisser-passer, laisser-faire, vous pouvez reprendre les textes des économistes de la première moitié du 19e, vous serez étonné de voir les résonances dans les slogans actuels qu'on peut voir ici ou là. Par contre, en 1962, puisqu'on se replace tout de même, hein,
il y a 50 ans.
Voilà, on ne peut pas dire ça. En 1962, le bloc communiste, il existe. Alors, les subprimes à Moscou, oui, ça n'existe pas.
Mais c'est justement là où il y a une sorte d'anticipation du concile. Le concile semble avoir fait comme si le communisme n'existait pas d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez, Anne-Lepape, poser la question d'un auditeur ?
Un auditeur de Radio Courtoisie pose la question, Luc Perrin pourra peut-être répondre, au sujet du communisme, n'y a-t-il pas eu les accords de Metz qui auraient demandé à ce que le Concile ne condamne pas le communisme ?
Alors ça, je sais que Jean-Marie Dirand a travaillé là-dessus. Bon, ça ne fait pas l'unanimité de la corporation historienne, dirons-nous, voilà. Ce qui est à peu près certain, c'est que il y a certainement eu un marchandage. Alors, est-ce que on est allé prendre un plat typique lorrain à Metz ou ailleurs, ou plutôt dans une trattoria vaticane, je ne sais pas, et ça n'a, à mon avis, strictement aucun intérêt ni aucune importance, c'est pas pour être méchant en disant ça. Ce qu'il y a de certain, c'est une réalité simple, c'est que Jean XXIII voulait la présence de représentants des églises orthodoxes. Ça, c'est un point de départ, puisque c'était pour accréditer la dimension œcuménique au sens plus vaste que œcuménique catholique du concile.
Mais les conciles précédents aussi avaient souvent demandé aux orthodoxes.
Ils avaient demandé, mais les
en
refus.
En 1870, ça a été demandé.
Oui, ça a été demandé, mais les refus avaient été toujours.
Je précise ça pour quelques auditeurs qui pourraient croire que l'œcuménisme est toujours mauvais.
Y compris au concile de Trente. Y compris au concile de Trente, le pape Paul III avait envoyé une ambassade à Moscou en espérant avoir une délégation. Et donc, on avait beaucoup d'espoir déjà, c'est pas que Jean XXIII. Toutefois, la réalité était que toutes les églises orthodoxes, menées en particulier par le patriarche Athénagoras, avaient dit dans un premier temps non. Et la seule qui avait dit peut-être... C'était l'église orthodoxe russe. Église orthodoxe russe dont on sait aujourd'hui très bien qu'elle était sous un contrôle très étroit, dès le niveau du séminaire, par tous les organes de sécurité de cet état totalitaire. Bien. On sait par ailleurs que ceux qui ont été envoyés en délégation avec Rome faisaient des comptes rendus à leur correspondant aux grandes oreilles. Bon, rien de très étonnant là-dessus. Mais... Évidemment, la présence d'une délégation russe, par définition, il fallait bien qu'il y ait des conditions. Et on peut imaginer effectivement très bien que les Russes ne seraient pas venus si le concile s'était ouvert pour dire « nous allons passer 3 ans ou 4 ans à condamner le communisme, à reprendre les condamnations et à les crier haut sur les toits ». On comprend très bien. Rappelons aussi donc, premièrement, alors, y a-t-il une rencontre à Metz ou pas ? Je n'en sais rien. Y a-t-il eu certainement une entente par la diplomatie vaticane pour que cette délégation soit présente ? Ça, je dirais, ça tombe sous le sens. D'autre part, la deuxième chose, il faut se rappeler, c'est que, indépendamment de cette question du communisme, c'est le discours d'orientation donné par Jean XXIII le 11 octobre 1962, où il dit « le concile n'est pas là pour refaire de la doctrine, n'est pas là pour faire du dogme, parce que tout ça, nous le connaissons bien, tout ça, ça a été très bien fait par les conciles précédents, auxquels il fait référence explicite, Trente et Vatican I, très bien, les conciles ont très bien travaillé, il n'y a pas besoin, la doctrine, vous autres, pères conciliaires, vous la connaissez très bien, ce n'est pas la peine de la rabâcher ». Et nous ne sommes pas là pour faire des condamnations, mais nous sommes là pour faire le fameux mot qui va avoir une longue postérité. Nous sommes là pour faire un concile pastoral. Bon, voilà le fond des choses. Alors, c'était logique dans ce cadre général qu'il n'y ait pas de condamnation stricto sensu. D'autre part, la pétition, les pères de la minorité, ont très significativement, ils ont attendu la mort de Jean XXIII pour la déposer. Ils ont attendu la mort de Jean XXIII, ils ont attendu début juin 1963 pour qu'elle soit déposée, en pensant que peut-être Paul VI changerait d'avis, puisque tout était remis sur la table quand il y a l'élection d'un nouveau pape.
Donc il y avait vraiment l'idée que Jean XXIII était décidé à ne pas revenir sur la question du communisme.
Voilà. Mais j'allais dire, c'est un élément dans une optique plus générale qui consiste à dire, je ne réunis pas un concile pour ajouter des anathèmes à la liste des anathèmes, liste des anathèmes qui demeure inchangée telle quelle.
Oui, bien sûr.
Oui, mais le pape le dit explicitement. Vous dites oui, bien sûr. Je ne suis pas certain, voyez-vous, mon père, que dans, monsieur l'abbé, que dans tout le catholicisme d'aujourd'hui, tout le monde ait cette réaction naturelle. Mais oui, bien sûr. Moi qui fréquente justement le milieu théologien professionnel, le « mais oui, bien sûr » ne va pas de soi, croyez-le-moi. Hein. Si vous lisez un certain nombre d'éminents jésuites comme le père Théobald, le « oui, bien sûr » ne va pas de soi.
Ah bah pour le père Théobald de Vatican II, c'est une question de style surtout, d'après ce que j'ai compris. Alors évidemment, quand on en est au style, le fond a disparu depuis longtemps. Où il est tellement abyssal qu'il est devenu invisible. Mais je crois quand même que depuis la rédaction du catéchisme catholique, au début des années 90, on a bien changé sur le concile. Et c'est peut-être un autre aspect du débat qu'il faudrait lancer. Est-ce que le concile n'a pas été perçu par beaucoup comme une révolution culturelle? Mais la révolution culturelle de Mao, c'est en 1966. Hein, et puis la révolution culturelle de mai 68, elle est la révolution culturelle pour l'Occident. Mao, c'est les quatre vieilleries, c'est-à-dire la tradition, les coutumes. Enfin, on est vraiment dans le même esprit et que l'Église anticiperait en quelque sorte avec Vatican II, hein, en se débarrassant des vieilleries. Il y a un certain nombre de gens qui pensent ça. Bon. Mais et qui vivent Vatican II de cette manière, contemporains de l'événement.
Il faudra nous montrer les textes où cela est écrit. Hein. C'est parce que là, vous aurez plus de difficultés. Il y a le problème des textes.
Il y a le problème
de ce que les pères conciliaires ont cherché, voulu, dit, annoncé. Parce qu'on oublie toujours cet aspect-là. Chaque texte, il y a des relations. Il y a des explications très longues, comme dans les conciles précédents, et il y a les débats conciliaires. Et quand on nous dit, ce texte est une possible ouverture à l'indifférentisme et au syncrétisme, que répondent les pères de la majorité? Oui, bien sûr, c'est ce que nous voulons. Ben non, ils répondent non, évidemment non, et c'est une chose que nous refusons. Il faut tenir compte aussi de ce que les pères conciliaires avaient dans la tête quand ils ont voté les textes.
Denis Sureau. C'est utile.
Oui, alors Vatican II est un objet complexe, parce que c'est à la fois effectivement un événement quasi mythologique, qui est incarné par un esprit du concile,
comme dit Benoît XVI, le non-esprit du concile.
Et puis il y a le concile comme un corpus de textes, effectivement, avec des explications, de textes qui depuis ont fait l'objet de diverses interprétations déjà par le magistère, spécialement par le cardinal Ratzinger sous le pontificat de Jean-Paul II, et puis depuis, donc c'est pas un corpus de textes comme ça, c'est pas le Coran, et c'est un ensemble de textes qui fait l'objet déjà d'interprétations. Mais c'est un point important, parce que je crois que nos amis de la Fraternité Saint-Pédis souvent ne s'intéressent, quand s'ils s'intéressent à Vatican II, ont l'air d'oublier qu'il s'est passé quelque chose après Vatican II, et qu'il y a des points effectivement qui ont été éclaircis par le cardinal Ratzinger en tant que préfet de la Congrégation de la Foi, et depuis, donc c'est quand même important de dire ça. Et pour revenir sur le premier aspect de Vatican II, un petit peu comme événement mythique, il y a un cas très, très simple. Si vous demandez un fidèle lambda, par exemple, qu'a fait Vatican II, il va vous répondre, bah, Vatican II, c'est grâce à Vatican II qu'il y a la messe en français et que le prêtre est dos au peuple. Mais comme faisait remarquer le cardinal Ratzinger, non seulement ces deux aspects n'étaient absolument pas dans Vatican II, mais ils n'étaient même pas dans la réforme de 69. Donc c'est un petit peu le côté paradoxal. On voit partout la messe de Vatican II, mais la messe de Vatican II, c'est immédiatement concrètement celle de 65, moi qui me conviendrait d'ailleurs assez bien. Cardinal Ratzinger a bien expliqué que la réforme de 69 était une possibilité parmi d'autres réformes, et bon, sous-entendu, peut-être qu'il y aurait eu des réformes liturgiques plus fidèles au texte de Vatican II, et voilà. Et bon, maintenant, l'enjeu, c'est de revenir finalement.
Il faut en tout cas bien distinguer effectivement la question de la réforme liturgique qui, au fond, s'impose très vite au peuple chrétien,
qui parasite
à partir de 1967. Il y a eu des réformes liturgiques avant.
Particulier
le texte Inter Ecumenici en 64. Mais l'idée d'une réforme totale, je pense quand même qu'elle est imposée aux cardinaux dans le consistoire
au premier synode extraordinaire de 1967. On présente déjà. C'est la fameuse version Bougnini du futur Ordo, si vous voulez. C'est un embryon extrêmement dépouillé, qui a fait l'objet de critiques très 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 fortes de la part des pères synodaux, d'ailleurs.
Voilà, et les pères synodaux...
Il a été très mal reçu,
ce projet, voilà.
Et la messe normative qui est célébrée devant les pères du synode... C'est une anticipation de ce que va être le Novus Ordo 2 ans plus tard. Mais il ne faut pas avoir cette idée. Les changements ont commencé tout de suite, très 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 vite. Et en particulier dans le monde anglophone, dès 64. Alors c'était absolument pas prévu du tout dans la constitution conciliaire. Quand on a fait les anniversaires en 2003 de la constitution conciliaire, beaucoup de gens, par exemple dans mon diocèse, les responsables du service diocésain liturgique disaient mais à cette occasion on a relu le texte de la constitution et eux-mêmes mesuraient l'écart considérable entre le texte de 63 et le Novus Ordo de 69. Donc, et depuis 69, dans la vie des paroisses, ils disaient mais on est très très loin de ce que du texte conciliaire. Et là, je paraphrase un responsable de service liturgique diocésain qui est tout sauf traditionnaliste. Hein.
Denis Sureau.
Oui, d'ailleurs, pour enfoncer le clou, je rappellerai, sauf erreur, que Mgr Lefebvre est entré au concile en étant un fervent défenseur d'une réforme liturgique.
Absolument.
Et qu'il a voté, l'historien me contradira peut-être.
Absolument,
mais, il a voté la Constitution. Alors, c'est très amusant parce que maintenant, on présente Mgr Lefebvre comme celui qui s'est opposé à la réforme liturgique de Vatican II. Mais non, il était même convaincu de la nécessité d'une véritable réforme liturgique. Pas d'une révolution liturgique, mais d'une réforme liturgique. Parce que,
particulièrement pour les pays de mission.
Voilà,
et la majorité des pères conciliaires n'avait aucunement en tête l'idée qu'il fallait faire la messe en vernaculaire dans les 6 mois. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé par une pression, mais qui n'est pas du tout dans la tête des pères conciliaires.
Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus, outre cette pression de la base qui existe, le Cabunini, qui est quand même une sorte de coup d'État intérieur de Mgr Bunini qui impose à Paul VI quelque chose.
Il y a des lobbies, il y a des lobbies dans l'Église, comme il y a des lobbies dans la société, ça existe.
Parce qu'on a eu l'impression que même le pape était un peu dépassé par les travaux de Mgr Bunini.
Très largement, c'est semble-t-il, alors même s'il les a suivis pas à pas, ça c'est une... c'est quelque chose qui a toujours été dit, c'est ce que Bougnini dit, c'est aussi ce que le père J m'avait dit à l'occasion, dominicain, qui est membre du Concilium, et qui était plutôt proche de Bougnini. Il a dit le pape visait régulièrement les textes, posait des questions. On sait par exemple que Paul VI s'est opposé à la dénaturation que prévoyait Bougnini du canon romain. Il avait prévu de mettre en charpie le canon romain, et ça, Paul VI a dit non, on garde le canon romain. Alors, l'habile lazariste...
On le garde comme optionnel. Hein,
voilà. L'habile lazariste a contourné l'obstacle, il a multiplié les canons fictifs qu'il a, les prières eucharistiques, bon, qu'il a démultipliés. Là encore, regardez le texte de Sacrosanctum Concilium. Dites-moi... dans quel article de Sacrosanctum Concilium est-il prévu qu'on dénature le rite traditionnel latin-romain, qui n'a jamais connu qu'un seul canon, qu'une seule prière eucharistique, jamais d'autre. Les orientaux, oui, mais le canon romain, le rite romain, jamais. Dites-moi où il est inscrit dans Sacrosanctum Concilium qu'il y doit y avoir une multiplication des prières eucharistiques. Nulle part.
Alors, à la brutalité de votre question, effectivement, on ne peut pas répondre autre chose que nulle part. Mais si on prend votre question de façon un petit peu plus large, moins précise, je crois quand même qu'il y a, dans Sacrum Sanctum Concilium, donc nous sommes passés pour les auditeurs de Gaudium et Spes, qui est l'Église dans le monde de ce temps et qui est un document plutôt sociologique, à Sacrum Sanctum Concilium, qui est une autre constitution conciliaire, la première qui a été signée, et qui concerne la liturgie. Alors nous allons nous arrêter un petit peu sur cette question, et je voudrais vous dire qu'il me semble qu'il y a deux concepts assez dangereux dans le texte conciliaire. Le premier concept, c'est le concept d'expérience liturgique. Et les expériences liturgiques seront faites et organisées dans les diocèses où il y aura un centre de contrôle des expériences liturgiques. Ça, c'était quand même appelé à une créativité de la base qui est assez... C'est un procédé assez surprenant. Et deuxièmement, il y a constamment l'idée de l'adaptation. C'est-à-dire qu'une bonne liturgie, d'après les textes de Sacrosanctum Concilium, c'est une liturgie adaptée au peuple. Le problème, c'est que, bien entendu, qu'il faut s'adapter au peuple. Moi, je célèbre la messe tous les jours et je ne perds jamais de vue que la messe n'est pas un acte de dévotion privée et que, par conséquent, lorsque je la célèbre de manière à être compris, de manière à être suivi, de manière à m'adapter au peuple. Et lorsque je suis allé célébrer un enterrement en Normandie la semaine dernière, où personne, absolument personne ne connaissait la messe traditionnelle, j'ai fait quelques simplifications qui ont permis à tout le monde de suivre. Ça va de soi. Donc, mais cette adaptation qui va de soi, elle est aussi... le terme est suffisamment vague pour qu'on puisse mettre dans cette adaptation des choses qui ne vont pas forcément de soi. Et qu'on puisse mettre surtout une espèce de souveraineté populaire. Finalement, c'est au peuple chrétien assemblé de dire comment la liturgie doit être pour lui. Et on va avoir des séances de créativité liturgique et de construction liturgique presque. Hein. La communauté va construire sa propre liturgie. Il y a eu beaucoup d'exemples de cela, et je pense qu'il y aura beaucoup de paroisses où c'est encore le cas.
Dans l'immédiat après-concile, il y a des études qui ont été faites en 1966. Donc les quatre prières eucharistiques, donc qui incluent le canon romain, prière numéro 1, les quatre donc légales, licites, autorisées en 1967, il n'y en a que quatre à l'époque. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 30 licites, je ne parle que des licites. Eh bien... sont adoptés en 1967. En Hollande, aux Pays-Bas, en 1966, il y a une étude, il y avait déjà plus de 50 prières eucharistiques qui ont été collectées, si vous voulez, par des archives, par les sources, par des témoins. Il y avait au moins une cinquantaine qui étaient déjà à l'œuvre un an avant les quatre officiels de Rome. Vous voyez, donc, on voit bien le mouvement. Mais attention, là encore. Alors, je peux vous suivre dans ce que vous venez de dire. Vous avez raison de dire qu'il y a, ce que je dirais, il y a des graines. Il y a des graines, effectivement, qui pouvaient déboucher sur des dérives et qui ont débouché sur des dérives. C'est tout
et
à fait vrai.
Et très rapidement, comme vous venez de le dire.
Et très, très, très rapidement. Très, très rapidement. J'en ajouterai une autre de graine qui est l'idée de simplification. Parce que cette idée de simplification, elle est dans le texte.
Elle est constante.
Elle est de dire il ne faut pas redoubler. C'est une idée que les pères conciliaires m'excusent, mais que je trouve parfaitement idiote. Je parle là en tant qu'enseignant, parce que chacun sait que quand on enseigne, on répète. Or, c'est le béaba de l'enseignement, c'est de répéter. Donc, de vouloir un enseignement qui ne répète rien, ça n'a pas de sens.
Et bon. Puis le rite est lui-même une répétition. Enfin...
Absolument. Donc là, il y a bien des graines, effectivement. Seulement, ces graines, il y a deux choses. On les arrose ou on ne les arrose pas. On les cultive ou on ne les cultive pas. Ou on peut mettre du désherbant, si nécessaire. Les mauvaises herbes, on peut les laisser telles quelles. Le concilium, malheureusement, et ça c'est la responsabilité de Mgr Bouguenini, avec l'appui du pape, on ne peut pas dire le contraire, eh bien, a plutôt mis de l'eau sur ses graines. Il les a plutôt fait pousser, il ne les a pas contenues. Et d'autre part, deuxième donnée qu'il faut là aussi pas perdre de vue, vous dites, mais oui, regardez, votre exemple était très bon, celui de l'expérience. Alors, vous pensez, évidemment, vous pensez l'expérience, vous la pensez en moderne, si je puis dire, vous la pensez en homme de 2012. Mais en 1962-63, on la pense pas comme cela.
Ça, je suis parce pas que... sûr. Non. Par exemple, la messe face au peuple est une expérience liturgique qui a lieu dès la guerre.
Pouvait imaginer un désordre généralisé dans l'Église? Prenez les mouvements, prenez les romans, prenez les films qui vous parlent, par exemple, de l'Église québécoise, même de l'Église française et autres. La révérence qu'il y a à l'égard du prêtre, etc., etc., toute cette époque-là, par rapport aux évêques et autres. C'est cette culture-là que je parle des pères conciliaires, qu'eux ont en tête. Ils n'imaginent absolument pas une sorte d'immense happening qui va, façon mai 68, si vous voulez, qui va leur éclater au visage dès 1964. Il y a des prêtres et des pères conciliaires qui écrivent au père de Lubac, et le père de Lubac dans ses écrits lui-même, dès 64, dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que il y a ce qui se passe au concile, avec la mentalité, si vous voulez, des 150 années qui précèdent. Et puis, on est dans les années 60. Et le résultat va se produire dans une église qui vit dans sa société.
Est-ce que c'est pas le propre de toute révolution, de la même façon qu'il y a eu la révolution de mars avant la révolution d'octobre, ou la révolution de février avant la révolution d'octobre
Si vous voulez me faire dire que les pères conciliaires sont des Kerensky et pas des Lénine, je vous soutiens. Voilà, je vous soutiendrai. Ou sont des Girondins et pas des Jacobins. Vous voyez, ça, je veux bien vous comprendre.
Mais les structures sont en retard.
Mais ils sont pas Jacobins.
Les structures sont systématiquement en retard parce que les structures croient un minimum en elles finalement. Mais le problème, c'est que on a eu quand même, à travers des mots d'ordre littéralement donnés, un vrai débordement par le...
Alors attention...
On va écouter Denis Chiroux.
Je me tairai ensuite, mais la question qui est toujours passée un peu sous le tapis, les anglo-saxons, eux, ne la passent pas sous le tapis, et c'est bien dans le texte conciliaire, et c'est un article tout à fait fondamental, puisqu'il dit, il donne la règle herméneutique de cette réforme, qui n'a absolument pas été respectée. C'est dans le texte conciliaire. Le texte conciliaire dit, on ne changera que ce qui sera strictement nécessaire de changer, et encore que tout changement doit s'inscrire comme un développement organique, je vous rapporte au texte.
C'est là où la réforme liturgique elle-même est improbable à partir du texte que vous citez.
C'est la régula.
Et c'est là où il y a le petit coup d'État quand même de Bouguenini qui impose.
On est bien d'accord, parce que la multiplicité des prières eucharistiques dans le rite romain, comment ça peut être un développement organique? Ça, je
Denis Chiroux. Oui, non, je voulais juste mettre un petit grain de sel. Les premières expériences liturgiques, en fait, remontent au scoutisme.
Oui.
Ce sont les messes en plein air.
Les années 20.
Donc, dans les années 20, du scoutisme qui ont été le premier laboratoire liturgique. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le fondateur de l'Homme Nouveau, qui était le père Filaire, et qui était un grand animateur de jeunes, qui avait créé la Cité des Jeunes, et alors lui était un fervent défenseur de ce type d'expérience liturgique, parce que ce qu'il voulait, c'est de faire des grands rassemblements. Alors bon, dans les années 30, il était assez fasciné par ce qui se faisait dans certains pays étrangers, comme donc l'Allemagne ou l'Italie, voire même l'URSS d'ailleurs. Donc lui, il voulait faire une sorte de grand rassemblement de jeunes catholiques, avec des processions vers l'autel, mais avec la messe, alors là, face au peuple, sur des grands autels, etc. Et puis certainement des traductions de prières.
Mais attention, on ne change rien au rite. Hein. Attention, que nos auditeurs, là aussi, ne se trompent pas d'époque. Les expériences que font les gens dans le mouvement de Guardini, par exemple, et puis qu'on va retrouver chez les scouts français, effectivement, dans les années 30, dans les années 40. Moi, quand j'ai fait mon travail sur les paroisses parisiennes, j'ai trouvé des messes de jeunes dans la fin des années 50, dans beaucoup de paroisses parisiennes qui se font à la crypte, etc. Ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire, pour paraphraser une publicité qui passait autrefois, c'est monsieur plus, c'est pas monsieur moins. C'est là qu'il y a une différence tout à fait considérable. Les expérimentations à la Guardini et autres, c'est je rajoute quelque chose au rite, je retranche pas. Je rajoute. Donc, je fais des paraliturgies, je fais des processions, je fais des offrandes particulières.
Chez Guardini, dans les années 30, peut-être, mais il me semble quand même que dans les années 50-60, on est déjà dans l'idéal de simplification, par exemple, que vous dénonciez tout à l'heure. Et de rationalisation. Ah ben, rationalisation de la liturgie, c'est une absurdité.
Enfin, et la langue, tradition dans les termes. La langue vernaculaire, le père Filaire. Je parle du père Filaire parce que c'était tout sauf un uluberlu progressiste ou moderniste. Enfin, le père Filaire était une personnalité, bon, qui avait un grand sens de l'Église, enfin, qui a même construit toute une théologie autour de l'Église. Mais lui était un fervent défenseur de l'usage du français dans la liturgie. Hein. Pour lui, ça lui posait aucun problème dogmatique. Il aurait été certainement très surpris de voir ce que ça donnait par...
Disons-le là aussi, partiellement en Allemagne, dès les années 40, et de façon tout à fait officielle, partielle, hein, en Allemagne, dans les pays germanophones, hein, Allemagne, Suisse germanique et Autriche. Donc, il n'a jamais été question, là encore, des gens comme le père Wininger, qui a publié beaucoup depuis, mais qui commençait déjà sa carrière de plumitif, si je peux dire, parce qu'il a écrit tellement de livres et de brochures, dans les années 50, il envisageait la première partie de la messe. Il n'y a jamais été question une seconde, que le canon romain ou les prières eucharistiques soient traduites en langue vernaculaire. Jamais. Ça, c'est hors d'esprit en 1962.
Il n'a jamais été question non plus d'empêcher la célébration du rite traditionnel.
Et formellement, effectivement, juridiquement, dirons-nous. Alors là, il y a une ambiguïté en ce sens qu'au niveau des pères conciliaires, si vous voulez, la question ne se pose pas. C'est-à-dire, pour retraduire votre question en langage 1962-65, encore, j'ai le souci de nous ramener à la chronologie. L'idée n'est pas d'avoir deux rites ou deux formes. Hein. L'idée, c'est de faire évoluer le rite romain-latin dans la ligne de ce qui a été fait sous Saint-Pie-X et Pie-XII et un tout petit peu Jean XXIII. C'est ça qui est là-dedans. Et d'aller un tout petit peu plus loin que ce qui a été fait dans les 50 années précédentes, en particulier en ouvrant plutôt pour les pays de mission, c'était ça qui était en tête, la première partie de la messe, la liturgie dite de la parole, à la langue vernaculaire. Voilà ce qu'en gros les gens avaient en tête. Vous évoquiez tout à l'heure, j'avais retrouvé cette petite lettre de l'abbé Berthaud à l'une de ses filles de Pontcallec, où il écrivait, une des sœurs, au fond, juste après le vote de la Constitution en 1963, et sa promulgation par Paul VI, il disait, mais au fond, cette constitution ne changera pas grand-chose. Et l'esprit d'un expert théologien de la minorité conciliaire au moment du vote de 1963, il n'exprimait pas, vous voyez, une terreur et une inquiétude.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas la technique du voleur chinois aussi, que de ne paraître rien changer tout en changeant tout, parce qu'on change au cœur la fibre qui change tout. Et il me semble quand même que c'est, donc on peut dire ces trois thèmes effectivement, de l'expérience liturgique, de la simplification liturgique et de l'adaptation comme principe de la liturgie, sont quand même des thèmes extrêmement dangereux qui justifient largement ensuite, qui seront utilisés pour justifier les très nombreuses dérives. Alors, il faut absolument que je fasse entendre aux auditeurs une annonce extrêmement importante pour eux à Radio Courtoisie, mais je voudrais, avant que nous écoutions ce bobino, vous dire, messieurs, que le message que nous avons, il y a apparemment plusieurs messages qui ont été synthétisés. Des auditeurs aimeraient que vous parliez davantage de beaucoup de désastres de Vatican II. Il faut les citer. On va en discuter dans un instant.
C'est une langue belle avec des mots super, qui porte son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, continue de l'honorer. C'est le dimanche 2 décembre que nous célébrerons le 25e anniversaire de Radio Courtoisie, et non le 18 novembre, comme il avait été d'abord envisagé. Dimanche 2 décembre, à 11h30, venez déjeuner avec les patrons d'émission de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2012 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49€ par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 2 décembre, à 11h30, sur la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie.
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Alors, nous reprenons la discussion avec les auditeurs, et pas entre nous, s'il vous plaît. Mais la passion monte. Ce que je voudrais, c'est que nous ayons le temps ce soir d'envisager un petit peu les documents principaux du Concile Vatican II. Et de ne pas parler du Concile de façon trop générale, de façon trop mythologique même, Mais de parler des textes tels qu'ils sont, avec parfois leur force et, je dirais, assez souvent leur faiblesse. Et puis, toutes les manières dont ces textes prêtent le flanc, finalement, à une interprétation extrêmement dangereuse pour la vie même de l'Église. Je dirais, aujourd'hui, peut-être, pour sa survie. Alors, je voudrais que nous abordions un texte que nous abordions ensemble, et peut-être je donnerai la parole d'abord à Denis Sureau, puisque on va essayer de respecter un temps de parole. Je voudrais que nous abordions donc un texte phare du Concile Vatican II, qui est la Constitution sur l'Église, Constitution qui s'appelle Lumen Gentium, qui a été votée à une majorité écrasante de pères conciliaires, parce que je crois que seuls 4 pères conciliaires ne l'ont pas voté. 4. Et on ne sait pas pour quel motif. Hein. Ce ne sont pas forcément des pères conciliaires de droite. Ça peut être aussi des pères conciliaires de gauche qui ont trouvé que Vatican II n'allait décidément pas assez loin. En tout cas, est-ce qu'on peut dire quelque chose de Lumen Gentium? Est-ce que Lumen Gentium a contribué à plonger l'Église dans, moi, ce que j'appelle assez volontiers l'état de schisme dans lequel elle se trouve, c'est-à-dire dans cette espèce d'autodissolution du lien de la discipline, du lien de la liturgie et du lien de la foi, qu'on est bien obligé de constater. Denis Sureau.
Alors écoutez, je vais peut-être vous décevoir ou peut-être
vous êtes absolument
décevoir les auditeurs, parce que pour moi l'Omen Gentium c'est un texte important, très beau, que je ne connaissais pas, que c'est grâce à une conférence d'un prêtre qui était pourtant plutôt traditionnaliste, l'abbé Loiseau, que j'ai découvert. Et pour moi, c'est un texte non seulement important, mais je pense qu'on ne peut plus faire de la théologie de l'Église sans passer par Lumen Gentium. C'est-à-dire qu'il y a un avant Lumen Gentium et un après.
Est-ce que vous pouvez caractériser l'avant et l'après ?
En fait, ce qu'il faut bien voir un petit peu dans la longue durée, c'est que dans le contexte de la lutte contre la prétendue réforme, donc les protestants insistaient beaucoup sur l'Église invisible des croyants, quoi. Bon, au détriment des structures visibles, évidemment, et de la fidélité au pape de Rome. Donc et par réaction, ce qui s'est passé, c'est que les contradicteurs, en fait, ont survalorisé l'Église dans sa dimension sociale, visible, de société juridiquement constituée. D'ailleurs, vous voyez ça dans les catéchismes jusqu'à la veille du Concile. Qu'est-ce que l'Église ? Ben, l'Église, c'est la société des fidèles unis aux évêques, même unis au pape. Eh bien non, l'Église, ce n'est pas que ça. Ça, ce n'est qu'un aspect très petit de l'Église qui...
Du mystère de l'Église qui est
composé également de sa partie souffrante, des âmes du purgatoire. En ce mois de novembre, il est bon de le rappeler, et aussi de l'Église, évidemment, triomphante du ciel. Donc, la dimension aussi de l'Église comme corps mystique, comme corps de Jésus-Christ, de Jésus-Christ répandu et communiqué, comme disait Bossuet.
Mais alors, justement, est-ce que Pie ne l'a pas dit dans Mystici Corporis ?
Alors, il a commencé, effectivement, mais de toute façon, on ne peut pas comprendre Lumen Gentium sans Mystici Corporis. C'est-à-dire, c'est une...
Enfin, 1944, je crois, hein. 43, pardon.
Il faut savoir qu'il y a une omniprésence de Pie XII dans les références du Concile. Hein. C'est quelque chose on peut proposer Pie XII au Concile, enfin pas aussi simplement. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu, quand on regarde toute l'évolution de la réflexion théologique sur l'Église depuis le début du XXe siècle, il y a eu une véritable redécouverte de cette dimension du mystère de l'Église, avec des travaux innombrables, et qui ont abouti effectivement à ce texte, qui n'est sans doute pas parfait, qui présente peut-être des équivoques, enfin bon, même certainement, puisque sur certains aspects comme la collégialité, il a fallu que le pape Paul VI rajoute une note explicative pour corriger effectivement des faiblesses. Mais je pense que ce texte nous a libérés d'une vision juridicisante de l'Église. Et pour moi, c'est peut-être le plus grand acquis de Vatican II, et qui n'est pas un acquis pastoral, qui est un acquis doctrinal et même spirituel. Bon.
Luc Perrin ?
Oui, je consonnerais assez avec ce que vient de dire Denis Sureau, en ajoutant... J'irai un peu en remettant un peu en perspective, effectivement, ne coupons pas Vatican II, ne le faisons pas comme certains étudiants de théologie en pensant que c'est un début. Il faut toujours le penser d'abord comme un parachèvement, comme un prolongement, comme etc. Par exemple, est-ce qu'il est extraordinaire de penser à l'Église comme peuple de Dieu en 1962, de le proposer comme premier chapitre ? Est-ce que c'est extraordinaire pour des pères conciliaires de 1962, qui sont tous des vieux monsieur, ne l'oublions pas, hein, des vieux monsieur.
Des vieux messieurs.
Vieux messieurs. Et ces vieux messieurs, merci, oui. Et ces vieux messieurs, ils ont presque tous été impliqués dans l'action catholique. depuis 30 ans, au moins. Bon. Les mouvements laïcs qui se sont multipliés au 19e siècle, énormes partout, dans toute l'Europe, aux États-Unis, etc., etc., tout ça, ce sont des choses qui sont connues, qui ne sont même pas connues intellectuellement, qui font partie de la vie de l'Église, de ses évêques, de ses responsables de grandes congrégations. Donc, j'allais dire, Vatican II, avec la notion de peuple de Dieu, elle met en selle quelque chose qui faisait partie du vécu de l'Église depuis 150 ans. On en force magnifiquement, si vous voulez, une porte qui était largement ouverte.
J'avoue que je n'ai jamais compris les difficultés de certains vis-à-vis de l'appellation Église-Peuple de Dieu. Évidemment.
Maintenant,
le problème,
voilà,
c'est le démocratisme universel.
Voilà, vous touchez. On est exactement comme dans le cas de ce que j'appelais les mauvaises graines qu'on trouve ici et là semées dans Sacrosanctum Concilium pour la liturgie. Eh bien, il y a quelques mauvaises graines qui sont susceptibles, effectivement, d'être comprises de travers et qui ont été largement comprises de travers dans l'Église. Je ne parle pas de phénomènes marginaux. Hein. Bon. Et la notion de peuple de Dieu, effectivement, elle a été un support très rapidement pour certains, pour virer à du congrégationalisme protestant, à dire c'est la communauté qui est elle-même, par exemple, au niveau de la liturgie, le Père Skillebec, dès 65, le Père Skillebec, un dominicain néerlandais, part tout de suite dans l'idée que c'est la notion de peuple de Dieu, donc la souveraineté c'est le peuple, etc., etc. Et il va repenser la communauté liturgique en disant, mais ce qui est fondamental, c'est le peuple assemblé, et puis les ministres qui s'agitent autour, si vous voulez. Hein. Il est systématiquement condamné par le magistère. Hein.
Il sera condamné un peu plus tard, assez rapidement.
Par Paul VI, par Jean-Paul II, etc.
Mais surtout pour théories sur la transsubstantiation qui, je crois, était un peu faible, mais constamment enseigné,
monsieur l'abbé. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Hein. Donc, il y a les condamnations romaines, c'est une chose. Il y a ce qui s'enseigne, ça qui se vit dans l'Église, c'est autre chose. Les dominicains hollandais, il y a quelques années, c'est pas vieux, ça date du pontificat de Benoît XVI, hein, ont distribué une brochure complètement skillebecienne. Et qu'est-ce qui leur est arrivé ? Rien ! Ah, pas de suspense à divinis, pas de sanctions, rien du tout. L'ordre dominicain, dans sa grande tradition démocratique, entre guillemets, a dit oui, on va discuter, il va y avoir un dialogue, il va y avoir, etc., etc. Point à la ligne, vous voyez. Donc, quand on parle de préambule aujourd'hui, il faut avoir toujours ça en tête aussi. Donc, ça, peuple de Dieu, ça peut être compris de travers. Alors, les papes et le magistère ont constamment redit: attention, la constitution divine de l'Église n'est pas une démocratie. Je vous renvoie, il y a une multitude de discours de Jean-Paul II là-dessus. Deuxième petite graine, la collégialité. La collégialité, elle est souvent présentée comme quelque chose de... Alors voilà la grande innovation de Vatican II qui aurait affaibli l'Église. Mais les gens qui aiment bien Mgr Lefebvre, ils devraient savoir que lui-même a passé une partie de sa vie à fonder des conférences épiscopales. Lui-même, la conférence épiscopale principale allemande, elle a été fondée en 1848. Hein.
En France, il y avait l'ACA, je crois, c'est ça.
Il y avait l'Assemblée des cardinaux et archevêques, effectivement, depuis 1919. Bon, donc, n'imaginons pas qu'il n'y avait pas de vie de collégialité dans l'Église au 19e, 20e siècle. Il y en a une avant. Bon. Alors, toujours pareil, est-ce que la collégialité qui est bien encadrée par le texte de Lumen Gentium fait référence explicite à Vatican I, on ne retire rien au pouvoir pontifical.
Oui, et à sa détermination de l'infaillibilité, ça
rien.
Il faut le dire, parce que souvent les gens opposent Vatican I et Vatican II, il y a des formules de Vatican II ambiguës au plan de la collégialité, mais il y a aussi le rappel pur et simple à la lettre
là aussi, voilà. Alors maintenant, il peut y avoir la pratique. Vous savez, c'est comme sous la Troisième République. Le président de la République de la Troisième République avait beaucoup de pouvoir dans les lois constitutionnelles de 1875, mais il avait choisi de ne pas les exercer.
Mais pour être concret, par exemple, au numéro 23, vous avez cette idée que les évêques sont, pour, chacun pour sa part, le principe et le fondement de l'unité dans leur église particulière. Ça peut, dans une
très traditionnel,
d'esthétisme général, être très bien reçu. Mais il y a quand même l'idée que le pape est la plénitude de pouvoir et qu'en dehors de la reconnaissance du pape, l'évêque local ne peut pas se dire le principe de l'unité. Et ça, ce n'est pas précisé là, c'est précisé ailleurs.
Voilà, que
c'est
l'évêque,
ailleurs.
Les évêques agissent,
formules,
n'oubliez
isolées
pas,
isolées de leur contexte, que je voudrais faire comprendre aux auditeurs,
pas,
c'est quand même...
Monsieur l'abbé,
juste,
que l'évêque,
je
il agit en communion avec le pape tout le temps.
Le mot communion n'est pas dans Vatican II, à ma
il est dans la nota prévia, voilà. La communion hiérarchique de l'Église. Mais, nota prévia introduite à la demande de la minorité.
Mais
dont,
la théorie
dont
de l'Église communion ne s'y trouve pas et le terme communion est encore très rare. Ce que je voudrais dire, c'est que des formules comme celle-là, qui peuvent tout à fait être considérées comme des formules orthodoxes, peuvent aussi avoir des conséquences catastrophiques si on les coupe du contexte et si on les agite comme des drapeaux, si vous voulez. Et c'est ce qui s'est quand même souvent passé, c'est-à-dire qu'on a réduit Vatican II à des slogans ou à des formules séparées de leur contexte auxquelles on a fait dire un peu n'importe quoi, comme par exemple la théorie de l'Église sacrement qui a tendance à faire de l'Église un pur moyen. Et ça, c'est très dangereux, parce que l'Église, vous parliez de mystici corporis tout à l'heure et des magnifiques perspectives du mystère de l'Église, l'Église, c'est notre destinée. L'Église, c'est la vie éternelle. C'est pas seulement un moyen, c'est pas seulement l'Église sacrement dont il est question. Et Dieu sait si aujourd'hui, beaucoup de théologiens dominicains rament pour essayer de remettre la théologie de l'Église sacrement dans les rails. Bon, mais tout ça est un peu compliqué, et c'est vrai que lorsqu'on dit l'Église est un sacrement ou l'Église est un moyen, nous qui vivons dans la société qui est le règne des moyens, la société de consommation, ben, nous avons tendance à dire, ben oui, l'Église, c'est un moyen parmi d'autres. Et donc, à interpréter cette formule de Vatican II d'une manière absolument dramatique, nocive, destructrice pour l'Église, alors qu'on peut très bien dire que... moi, l'Église sacrement, je n'aime pas trop parce que c'est une invention du Père Rainer et que je ne suis pas un fanatique du Père Rainer, mais... que l'Église soit un signe levé à la face des nations, comme dit le prophète Isaïe, bah évidemment qu'elle est ça. En tout cas, je crois que, si vous voulez, sur ces questions, j'ai promis aux auditeurs de la théologie, hein, donc on ne les ménage pas, mais en même temps, bon, ils sont grands et ils peuvent... je crois que c'est important de réfléchir à ces questions d'une manière dépassionnée, d'une manière ouverte. Et j'aurais aimé, je vous avoue, inviter à cette émission des gens qui n'étaient pas forcément dans la même perspective vis-à-vis du Concile. Et malheureusement, il y a encore trop de passion pour que ce soit possible. J'aimerais bien qu'un jour, on puisse avoir des débats froids sur, comme nous les avons là, entre nous, alors que nous n'avons pas exactement les mêmes positions les uns les autres, mais un débat dépassionné sur le texte du Concile. Et parce que j'ai promis aux auditeurs... Une vision un peu générale du Concile, il faut qu'on avance et qu'on parle de Dei Verbum.
Il y aurait peut-être petite graine, si je puis dire, une petite graine qui est lourde de conséquences, c'est la notion de sacerdoce, entre le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel. Et ça, y compris le cardinal Lustiger, rappelait Lumen Gentium numéro 10, qui dit il y a une différence radicale, essentielle, fondamentale entre le sacerdoce commun des baptisés et le sacerdoce ministériel ordonné des prêtres. Seulement, c'est très bien, c'est très joli, c'est très bien dit, c'est très bien fait, et c'est très vrai. Ceci posé, que font mes étudiants? Ils me disent tous en cours le sacerdoce universel. C'est-à-dire la doctrine luthérienne qui abolit la distinction d'essence, non pas simplement de degré, hein, d'essence entre le sacerdoce baptismal commun et le sacerdoce ministériel ordonné. Je suis sans cesse obligé de dire à des étudiants de théologie, dont certains sont des religieux et des religieuses, je suis sans cesse obligé de leur rappeler cette distinction linguistique fondamentale. C'est ce que j'appelle les petites graines. Parce que si vous laissez glisser le sens légitime et orthodoxe de sacerdoce commun des baptisés à sacerdoce universel de type protestant luthérien, eh bien, vous aboutissez au sacerdoce universel, à la revendication de l'ordination des femmes, etc. etc.
La démonstration et semble très belle.
Oui, alors pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est ce que je voulais rajouter, je pense qu'un des acquis du Concile, malgré tout, est d'avoir redéfini la mission propre des laïcs. Et alors, vous parliez de l'action catholique. En fait, Vatican II va directement contre la doctrine pratiquée par l'Église de France, en fait, du mandat que doivent donner, que devaient donner les évêques aux laïcs qui voulaient développer des initiatives apostoliques. Là, il y a une reconnaissance de la vocation propre des laïcs qui n'ont pas demandé de mandat. Bon, l'Église de France a dû peut-être attendre 30 ans à abandonner ça. Alors, et puis dans la pratique, je ne suis pas sûr qu'ils aient totalement encore, quoique bon...
Je crois que cette question des laïcs et de l'apostolat des laïcs est vraiment la question sur laquelle le Concile a été le moins entendu, en particulier par ses propres élateurs.
Oui, alors voilà. Cela étant, j'ai...
Et les traditionnalistes ont pas mal d'avance là-dessus, oui. Sur d'autres. Pas sur tous les autres, mais sur d'autres.
Parce que ça les arrange peut-être.
Vous voyez Civitas, par exemple. Qui n'est pas un mouvement laïque fort aujourd'hui, face aux questions sociétales d'aujourd'hui, que le cardinal 23 soit obligé d'aller
exactement,
toujours au
charbon, oui.
Et qu'il ne puisse pas s'appuyer sur un mouvement laïque, ça pose quand même un problème. Surtout dans une église où on a mis les laïcs, soi-disant, verbalement, rhétoriquement, au centre.
Dans son discours de clôture de l'Assemblée de Lourdes, le cardinal 23 a lourdement enfoncé le clou pour dire que c'était aux laïcs de s'engager, de se manifester,
de
parler, etc.
Et le problème, c'est des structures de laïcs, ça fait peur.
Et moi, je peux vous donner une expérience personnelle. Il y a 12 ans, j'ai lancé une lettre d'information qui s'appelle « Chrétiens dans la cité », qui donne des informations sur les initiatives prises par les chrétiens, plutôt dans le domaine social, économique, politique. Et j'ai contacté tous les mouvements d'action catholique, en fait, pour faire connaître mon initiative. Et j'ai eu la réaction des responsables d'alors du mouvement du MCC, mouvement des cadres chrétiens, me posant la question « Mais quel mandat avez-vous ?» Je lui ai dit « Mais attendez, je suis un journaliste,
baptisé.
Un éditeur baptisé catholique, je lance une lettre d'information, dois-je demander un mandat à mon évêque pour... » Et là, on était en 96, hein, donc...
Alors, je vous presse un peu, je suis désolé, mais parce que je voudrais pas que les auditeurs puissent dire qu'ils ont été volés de parties importantes du Concile. Il me semble qu'il y en a encore au moins 3 et qu'il nous reste un quart d'heure. Donc, Dei Verbum, vraiment quelques mots courts. Dei Verbum, c'est sur la révélation divine, c'est sur les deux sources de la révélation et une réinterprétation de la doctrine des deux sources, on peut dire.
Oui, pour éviter une sorte de méchante dialectique entre, d'une part, l'écriture et, d'autre part, la tradition et les magistères. Donc, l'idée, en fait, c'est de bien voir que tout cela est dans la même ligne. Donc, bon. Alors, c'est une constitution qui est très chère à notre pape actuel, puisqu'il s'est... Il s'est impliqué personnellement en tant que tout jeune expert dans sa rédaction. Bon, là aussi, je pense que c'est un texte qui me semble fait assez l'unanimité.
Elle a quelques petits points obscurs qui avaient été soulevés par la minorité à l'époque, parce que la minorité, effectivement, remarquait qu'il y avait un certain nombre de points. La volonté, pour faire bref, la volonté des pères, là, était l'optique œcuménique était assez évidente, c'était d'essayer de dépasser l'opposition catholique-protestant qui s'était manifestée au XVIe siècle, entre d'un côté le sola scriptura, l'écriture seule, soi-disant, hein, évidemment, il y a tout un développement de type traditionnel chez les protestants, ne se sont pas très loin. Ils ont multiplié les confessions de foi. Alors, une confession de foi, vous voyez, les confessions de foi qui ne sont absolument pas uniquement des versets bibliques ou des extraits de Bible mis les uns à bout des autres. Hein. Ce sont des explications. Bon, voilà. Donc, il y a une production de tradition dans les églises, communautés ecclésiales protestantes. Bon. Et la version catholique qui disait il y a les Écritures et leur interprétation ne peut se faire que dans la tradition et surtout qu'avec le magistère qui est l'organe interprétatif de garantie de. Alors la minorité, l'idée astucieuse, disons, de la majorité conciliaire a été au fond d'emboîter les deux en disant il y a la révélation. Et la révélation, l'écriture et la tradition sont en fait comme compénétrées en quelque sorte. Il ne peut pas y avoir d'une certaine façon de sola scriptura sans explicitation, sans tradition.
Et alors ce qui est une évidence, c'est qu'il y a les 8 premiers numéros du document de mémoire 8 sur la tradition. Et puis il y a au numéro 24, je crois, de mémoire, l'écriture sainte est l'âme de la théologie. Donc elle est toute la théologie, puisque nous sommes notre âme, nous ne sommes pas notre corps, heureusement pour nous. Voilà.
Alors le problème, ce sont les traditions ecclésiales qui n'ont pas de référent scripturaire direct. La question a été posée, parce que l'idée des pères conciliaires était de dire, ben, au fond, tradition et Bible, au fond, sont totalement, si vous voulez, ça ne fait qu'un, en quelque sorte.
Ce que je veux dire, c'est que c'est un texte qui ne conclut pas, justement.
Non.
C'est vraiment un texte qui dit une chose et son contraire, et finalement, qui disant les deux, permet aux théologiens d'œuvrer. Moi, je pense, par exemple, au père de Lubac, qui s'est bien gardé d'aller au numéro 24 et qui s'est contenté, dans son œuvre éditoriale, de publier un commentaire des 8 premiers numéros, parce que la tradition vivante, c'était son concept, et il voulait la faire vivre.
Alors que le père jésuite Théobalde fait justement de Dei Verbum le centre de sa réflexion.
Absolument, mais Lubac aussi, enfin, d'une certaine façon, mais pas de la même.
Pas la même.
Hein. Voilà, pas de la même. Alors, le cher Théobalde est passionnant. Moi, j'avoue que j'ai eu l'occasion de préparer quelques travaux sur le père Théobalde.
Mais c'est tout un monde.
On va en parler, parce qu'il faut qu'on avance. Et je suis désolé de vous mettre un petit peu l'épée dans les reins. Et je voudrais que nous abordions quand même la question importante de la liberté religieuse et donc que nous nous transportions, non pas dans les constitutions que nous avons vues rapidement, toutes les quatre, mais que nous essayons d'aborder cette déclaration de la liberté religieuse qui a fait couler tant d'encre et qui a été très difficile à rédiger, puisqu'il y a eu, je crois, 4 versions
plus.
Voilà. Alors, sur la liberté religieuse, Denis Sureau, par exemple, qu'est-ce que vous auriez à dire ?
Alors, que c'est un texte qui est sujet à tellement d'interprétations que moi, j'y ai passé des journées
à l'étudier, quelqu'un qui a étudié les textes.
À discuter avec les défenseurs des différents modèles d'interprétation pour finalement me dire que l'interprétation authentique de ce décret n'a pas encore été publié par Rome et que c'est un décret qui est en attente d'explicitation. Cela étant, moi j'ai ma propre lecture, mais qui consisterait à dire que, et là où la déclaration, le décret ne me poserait pas de problème, c'est le droit à l'immunité de contrainte par rapport à l'État. Et ça me convient tout à fait, parce que par ailleurs, je considère que l'État tel que nous le connaissons, l'État moderne, est une structure de péché. Donc que le chrétien et l'Église soient libres de toute contrainte par rapport à l'État, moi, ça me convient assez bien. Cela étant, c'est vrai que c'est un texte qui est susceptible d'interprétation relativiste. Il faut savoir quand même que le catéchisme de l'Église catholique a essayé d'encadrer ce texte. Est-il parvenu complètement? Je ne sais pas. Je pense que Luc Perrin a certainement son avis là-dessus.
Je dirais oui. Bon, il y a deux choses. C'est une vexata questio. Hein, bon. Et effectivement, ça l'a été beaucoup entre 1962 et 65. Alors, je dirais que deux choses. Moi qui parle en alsacien, c'est-à-dire qui est connu un régime juridique légal en Alsace, pré-Vatican II, et qui connaît un régime juridique en Alsace post-Vatican II, donc après la déclaration Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse de 1965, qui n'a absolument pas changé. Et le régime d'avant faisait l'affaire des papes, le régime d'après, qui est le même, n'a pas changé. Vous voyez, ça n'a eu aucune incidence sur, directe et visible sur le catholicisme alsacien, qui est rentré en crise comme le reste du catholicisme français et du catholicisme allemand, simplement un petit peu moins vite. Voilà, si je veux définir les choses, c'est à peu près ça. Encore que pour le clergé, la crise y a été au moins aussi violente qu'à Lyon ou ailleurs. Et c'est peut-être pas totalement fini. Donc, vous voyez, pour un Alsacien, on lui dit la déclaration Dignitatis Humanae, elle a tout changé. Ben pour moi, dans mon quotidien, elle a strict. Si j'avais été en Alsace en 65, elle aurait rien changé. Vous voyez, c'est une histoire pour un peu relativiser ce débat qui a été souvent présenté comme quelque chose d'extrêmement explosif et qui, pour moi, me semblait un peu un faux problème. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, en gros, les pères conciliaires, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont fait le deuil des revendications extrêmes qui avaient été celles des papes du 19e, essentiellement du 19e siècle principalement, c'est-à-dire Grégoire XVI, Pie IX, Grégoire XVI dans Mirarivos, Pie IX dans le Cantacura et le Syllabus, et les diverses encycliques de Léon XIII, dont Immortale Dei, et il y en a quelques autres, il en a écrit plusieurs. Non. Que demandaient les papes du 19e siècle ? Les papes du 19e siècle, c'était très simple. Ils disaient, ben, on va obtenir mieux que ce que nous avions avant la Révolution française, c'est-à-dire nous voulons retrouver dans une idée de chrétienté idéalisée, disons, du Moyen-Âge, l'autorité suprême étant l'autorité spirituelle, le fameux pouvoir indirect. Il y a une autonomie du temporel et il y a un primat du spirituel, comme le dira Maritain. Bon. C'est ça qu'ils ont en tête. Bon. Simplement, tout au cours du 19e siècle, qu'est-ce qui se passe ? Ben, de plus en plus de sécularisation, une déchristianisation qui se développe avec des rythmes différents dans les différents pays, et l'idée d'établir un État catholique avec un exclusif et le monopole religieux, même Franco, en 1953, l'a pas fait. Vous voyez ? Bon. Donc, en gros,
alors, les pères conciliaires. Je vais vous couper pour que nous puissions non, donner un petit peu.
Ce que je veux dire simplement, c'est que les pères conciliaires, au fond, en 1965, se disent à quoi bon réclamer une situation dont on voit depuis un siècle et demi qu'elle est illusoire, qu'elle ne peut pas se produire. Et l'Église, dans la version dite tolérance, s'est installée dans cette situation. Ça ne l'a pas empêché de convertir une bonne partie de l'Afrique et de s'implanter en Asie. Ça ne l'a pas gêné dans sa fonction missionnaire. C'est pour alors, ça que la plupart des pères conciliaires n'ont pas vu de problème.
Pour qu'on puisse, sur cette question de la liberté religieuse, je crois qu'il faut absolument distinguer liberté religieuse et indifférentisme religieux ou voilà. Liberté de la conscience. Voilà. Autant la liberté religieuse, c'est une négociation entre l'Église et l'État. Et l'État, aujourd'hui, c'est un monstre. Vous avez tout à fait raison, et Cavano l'explique très bien. C'est un anti-dieu, en quelque sorte. C'est une anti-providence. Autant la question de l'autorité de la vérité, me semble-t-il, n'a pas été pensée dans ce texte. C'est au numéro 1, la vérité est... C'est pas index sui de Spinoza, mais c'est presque ça. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même. C'est de la philosophie, tout ça. Et là, on ne voit pas le caractère propre de la vérité chrétienne et de son autorité, me semble-t-il. Je vais très vite et j'en arrive...
Le texte dit que nul n'est dispensé de chercher la vérité. Hein.
J'en arrive à vous demander à chacun, parce qu'on n'aura pas eu le temps de voir Nostra Aetate et les religions non chrétiennes.
Pourtant un des points les plus
délicats. Pourtant un point important, en particulier le rapport avec les juifs. Et il aurait fallu que nous puissions parler de cela. J'espère que je pourrais vous inviter une autre fois à en parler sur les ondes de Radio Courtoisie. Je voudrais juste, parce qu'il nous reste une minute, un mot de conclusion.
Ah bah, écoutez, je vais faire de la publicité pour le hors-série de L'Homme Nouveau qui vient de paraître sur Vatican II avec des intervenants très variés de diverses sensibilités. C'est une très belle réalisation.
Citez quelques noms.
Bah, écoutez, il y a des évêques, il y a des évêques, il y a Yves Chiron pour l'aspect historique.
Et Luc Perrin, non ?
Il y a Luc Perrin, Émile Poula, Jean Madiran, Ludovic Lalou, et puis voilà.
Eh bien, écoutez, merci
beaucoup.
Excellente
conclusion.
Et bonne soirée avec Vatican II.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Catherine Rouvier, dirigé aujourd'hui par Guillaume de Tannoirne, assisté d'Anne Le Pape. Cette émission a été diffusée en direct jeudi 8 novembre 2012 de 18h à 21h et sera rediffusée vendredi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle a été réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.